Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission Conseil de famille, l'émission mensuelle sur la parentalité. Les hauts conflits, c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Et pour parler des hauts conflits, nous accueillons Anne-Marie Stams, coordonnatrice du PRE, le programme de réussite éducative au CCS de l'ODEVE, et Maude Fréchou, psychologue à l'EPE, à l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Anne.
Le juge aux affaires familiales constate chaque jour à ses audiences les ravages sur les enfants du conflit des parents. Ces batailles autour de l'enfant sont la plupart du temps des conflits de couple qui n'ont pas été réglés. Avec ce cortège de blessures, de rancœurs et de haine, c'est une souffrance pour l'enfant. Alors nous allons tout d'abord écouter l'interview réalisée par Maude avec la participation de Widad Omara qui est médiatrice familiale au sein de l'EPE, l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault.
Donc Widad, tu avais des précisions à m'apporter concernant la médiation familiale, donc on t'écoute.
Alors oui, effectivement, la médiation familiale, c'est avant tout un espace tiers avec un professionnel qui fait cette fonction tiers à destination donc de parents séparés ou en cours de séparation. Mais c'est également un espace qui permet d'accueillir toutes les situations de conflit, de rupture dans la famille, notamment à destination des grands-parents qui n'ont plus accès à leurs petits-enfants. La médiation aussi à destination des adolescents et des parents qui sont en rupture avec l'un des parents, notamment dans le cadre d'une séparation conjugale. On a également un champ qui s'adresse à des personnes, des familles, où on constate qu'il y a une personne vulnérable, que ce soit une personne âgée ou une personne en situation d'handicap lourd qui nécessite une prise en charge adaptée et notamment une concertation familiale. Donc c'est vraiment un champ large de la médiation qui s'adresse vraiment à toutes les problématiques qu'une famille pourrait rencontrer dans un contexte de séparation, mais même au-delà ou en dehors d'une séparation conjugale.
Effectivement, c'est un champ très vaste. Et donc, à travers ce champ-là, tu as pu constater donc des situations de haut conflit qui émergent depuis plusieurs années. Pourrais-tu nous définir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par haut conflit, en tout cas au niveau de l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault et du réseau des EPE?
Alors, c'est vrai que la médiation, on peut venir spontanément en médiation ou dans le cadre des orientations de justice. Et nous, ce qu'on a pu repérer ces dernières années, on a eu beaucoup d'orientations dans le cadre de la justice, notamment où les personnes, soit elles viennent avant une procédure en justice, soit c'est une médiation ordonnée par le juge aux affaires familiales, ou lorsqu'elles souhaitent aujourd'hui modifier un jugement en place, elles ont l'obligation de passer par un service de médiation familiale. Et c'est vrai qu'on a repéré une recrudescence, ou alors en tout cas, comme il y a eu une augmentation des demandes, proportionnellement, on a repéré une augmentation aussi des situations de hauts conflits. Et qu'est-ce qu'on entend par les hauts conflits? Alors on a mené ce travail-là, effectivement, comme tu pouvais le préciser dans la présentation du sujet, un travail en concertation avec la Fédération nationale des écoles des parents, où on était d'accord un petit peu sur une définition de ce que nous, on avait repéré du haut conflit et qu'on a nommé un conflit à haute intensité. Donc, ce qu'on a pu repérer dans un premier temps, c'est que c'est un conflit qui perdure dans le temps. On est d'accord pour dire qu'une situation de séparation de conjugale, ça crée du conflit, mais en tout cas, celui-ci perdure dans le temps. Et au-delà d'un an, et demi d'un conflit à charge émotionnelle assez forte, on peut considérer qu'on rentre dans des situations de haut conflit. Donc la première notion, c'est que ça perdure dans le temps. Et on parle d'une escalade conflictuelle, c'est-à-dire que plus ça va, on active vraiment une multitude de stratégies pour attaquer l'autre. Et c'est souvent des situations qu'on repère qui sont très judiciarisées, où la question de l'appel, la saisie du JAF, et demander au JAF est-ce qu'il y a des expertises psychologiques, etc. Donc il y a un millefeuille de procédures en justice qui sont activées dans ces situations-là. Il y avait une définition qui était intéressante de Friedrich Glass qui propose un modèle en 9 étapes et qui distingue des phases suivantes. Il parle de durcissement, les débats et polémiques, des actions conflictuelles, création de coalition, les mécanismes liés au fait de perdre la face, les stratégies de menace, les actions agressives, l'éclatement de l'ennemi et la destruction mutuelle. On est vraiment sur quelque chose d'intense, hein. Par contre, ce qu'on repère dans ces situations-là, on est vraiment sur une dynamique symétrique, hein. On est vraiment sur action-réaction. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la symétrie qui est en place. Donc, c'est important de repérer cette notion de réciprocité des affrontements. Elle est essentielle parce que parfois, on a des situations où là, on est vraiment dans de la violence conjugale. Et cette question d'asymétrie, on la repère en cours d'entretien. Mais là, on est vraiment sur cette question de réciprocité dans les affrontements. Donc, on a aussi repéré des indicateurs. On a la rupture de lien. La haine, la vengeance, le dénigrement de l'autre parent qui est très présent. Comme j'ai pu le préciser, la multiplicité des procédures et la récurrence des saisines JAF, une forte composante émotionnelle, donc vraiment, et qui est très, très présente, donc en termes de peur, de tristesse, des états dépressifs, une absence de communication totale entre les parents, où les enfants sont mis au cœur des échanges, ils endossent un rôle d'avocat, de messager, voire même de soignant à l'égard du parent. On repère également que plusieurs membres de la famille sont impliqués. Il y a une confusion des places pour les enfants qui sont souvent parentifiés. Et puis, on a la place de la famille élargie qui viennent soutenir le conflit. Et parfois aussi, tout ce qui est autour des informations préoccupantes, la saisine du juge des enfants, des choses comme ça qui vont, où les tiers vont détecter une problématique chez l'enfant, hein, qui va porter, j'ai envie de dire, les symptômes de ce conflit-là. Et là, ça enclenche tout ce qui est saisine du juge des enfants. Et ce qu'on repère, c'est vraiment une grande fragilité psychique chez les personnes concernées par ce haut conflit.
Donc, ce qui suggère qu'il y a un impact fort sur le développement de l'enfant. Quand je t'entends parler, il y a quand même cette notion qui inquiète, hein, les professionnels qui accompagnent les familles, c'est que pour l'enfant, c'est quand même très compliqué de grandir dans un contexte de haut conflit.
Exactement. Nous, médiateurs, on était dans une situation réellement d'impuissance, c'est-à-dire qu'on assistait à on recevait des parents en entretien qui devaient, qui avait l'obligation de passer par ce service de médiation pour pouvoir modifier un jugement en place. Et à la fois, on ne pouvait que repérer des parents en détresse, mais surtout, on s'inquiétait de l'état psychique, physique des enfants. Effectivement, ce qui a pu être repéré, même par rapport, même par les psychologues de l'école des parents, sur ces situations-là, il y a quelque chose où on était d'accord pour dire. On repérait réellement de la peur, de l'insécurité chez les enfants, du conflit de loyauté, des enfants complètement déstabilisés dans leurs apprentissages. Ça vient directement affecter leur développement, leur attention en cours. Des enfants où il y a une multitude de prises en charge dans le cadre du soin. Donc des enfants où les parents nous parlent, oui, de troubles de l'attention, mais au-delà de ça, des problèmes physiques en termes de maladies chroniques, un impact sur la sociabilisation de l'enfant, un isolement, enfin, vraiment c'est des choses comme ça où l'enfant, à la fois au-delà de la place qu'il va prendre, c'est l'impact de cette place sur son développement et sur ses aptitudes et sur son état physique.
Oui, donc en fait, l'enfant n'est plus en sécurité, quoi. Il y a quelque chose de la sécurité. Et moi, ce que je me dis également en t'écoutant, c'est que jusqu'à maintenant, finalement, le seul outil qu'on avait là pour pouvoir, en tout cas, soutenir ces familles, c'est les fameuses informations préoccupantes qui ne sont pas forcément adaptées aux situations. Et du coup, le réseau des écoles des parents a adopté, en tout cas, a réfléchi sur une nouvelle pratique d'accompagnement, une manière de pouvoir soutenir ces familles. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur cette nouvelle pratique, en tout cas ce nouveau dispositif, cette expérimentation que l'école des parents a mis en place?
Alors effectivement, c'est un processus alternatif d'accompagnement de ces parents-là. On ne pouvait que poser le constat que ces parents-là, dans le cadre d'une médiation classique, ne pouvaient pas être ensemble. Ou alors, on y avait l'expérimentation d'un entretien commun. Souvent, c'était juste un constat d'échec. On venait juste appuyer leurs difficultés et ils repartaient avec leur attestation pour pouvoir déposer leur requête en justice. Et ça, d'un point de vue professionnel, c'était pas satisfaisant. Et puis, avec les psychologues, on était vraiment soucieux de l'état des enfants, de la place des enfants. Donc on a réfléchi à un mode alternatif où on se dit on va faire de l'accompagnement individualisé, un espace de parole individualisé, et c'est une forme d'aller-retour pour pouvoir exercer cette coparentalité, en tout cas être parents ensemble, pas forcément dans un espace commun, mais restaurer une communication et mettre l'enfant au cœur des préoccupations et de ces enjeux-là. Parce que souvent, on sait que dans ces conflits-là, on est vraiment, l'enfant est perdu de vue. On est dans l'objectif d'atteindre l'autre, de lui faire mal. Et donc là, c'était de remettre l'enfant au cœur du projet. Donc on a mis en place cette action expérimentale en 2023, où sont organisés des entretiens individuels. Et on fait la navette, on fait une médiation de navette entre les parents sur, à la fois on est très factuel, sur l'organisation du quotidien autour de la scolarité, tout ce qui relève de l'autorité parentale conjointe, mais aussi ce qui relève des actes usuels et non usuels. On est vraiment sur ces notions-là. Donc, où le médiateur va travailler avec chacun des parents sur ces questions-là, les amener à faire des propositions, poser des questions et faire lien avec les deux parents. Et le lien, le commun, il est fait uniquement par mail. On est vraiment dans quelque chose où le médiateur va accompagner les échanges à distance. Ce que prévoit ce dispositif-là, c'est que les enfants vont être reçus par un psychologue de l'école des parents sur une séance où l'intérêt, c'est de voir un petit peu comment vont les enfants, comment ils se situent par rapport à cette situation de conflit, qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire remonter à leurs parents. Et donc, on va organiser ensuite, dans un deuxième temps, en lien avec le psychologue et le médiateur, une rencontre commune, une rencontre de restitution du travail, des accords qui auront pu être menés et la restitution de cet entretien que le psychologue aura eu avec les enfants et à destination des parents. Donc l'objectif, c'est d'organiser sur tout ce temps d'accompagnement, c'est d'organiser cette rencontre commune de restitution et de voir ensuite comment on peut poursuivre le travail. Ça nous semblait un préalable de pouvoir valider en individuel les personnes, là où elles en étaient dans leur souffrance, dans leur incapacité d'être en relation à l'autre, et de pouvoir accompagner justement à la mise en place de communs.
Donc en fait, ce que j'entends par là, c'est qu'au départ, il y a quand même cette notion de parentalité un peu parallèle, où chaque parent est un peu dans son coin, ce qui est tout à fait obligatoire au départ, et ensuite on croise. Effectivement, on avance sur un projet familial, quelque part.
Exactement.
Ok. Et il en est où, ce dispositif, Wydad, actuellement?
Alors, comme j'ai pu le préciser, il a été expérimental.
D'accord.
Et qu'aujourd'hui, faute de financement, on ne peut pas le poursuivre. Donc, on est en recherche de financement, de voir dans quel dispositif plus global il peut entrer, de manière à financer une action. Ce n'est pas encore de la médiation. c'est un préalable à la médiation éventuellement, parce que les personnes qu'on accompagne, c'est qu'à un moment donné, elles sont en capacité d'élaborer ensemble, d'être dans un espace commun. Donc c'est des personnes qu'on va pouvoir orienter sur un dispositif plus classique de médiation, ou au contraire, elles auront travaillé, elles seront en mesure de le faire de manière autonome, sans présence d'un tiers. Mais cette phase, hein, ce sas un petit peu préalable, aujourd'hui, faute de financement, et ça nécessite énormément de travail, d'accompagnement, un suivi individualisé, il n'a pas de financement, donc on l'a mis un petit peu en suspens, le temps de trouver les financements adaptés.
Et donc actuellement, sur le territoire, qu'est-ce qui est proposé, en tout cas, même si effectivement ce dispositif n'est pas encore applicable, quels sont les espaces, en tout cas, où vous pouvez recevoir les parents, hors cadre de vos conflits, j'entends, mais en tout cas pour les parents qui sont comme ça dans un désir peut-être de favoriser un nouveau projet familial suite à une séparation.
Qu'est-ce que vous... Alors, on peut recevoir, hein, bien sûr, des parents en conflit, hein, après on évalue ensemble, mais en tout cas, c'est de voir si le coma est possible, s'il n'est pas possible et si les personnes ne peuvent pas. C'est vrai que ça semble compliqué à mettre en place. Mais effectivement, aujourd'hui, on a, nous, à Clermont-Lérault, une permanence tous les mardis. Elle se tient à la permanence santé sociale de Clermont-Lérault, place Auguste Ginouvet. C'est un lieu de permanence qui nous est mis à disposition par CCAS de la commune de Clermont-Lérault. Et sur l'ODEV, il y a l'association, le CIDFF, qui met en place des permanences également à destination de toute personne. Il faut savoir que le premier entretien individuel, nous, on le met en place de manière individuelle. Il est gratuit, il permet un petit peu d'élaborer avec la personne. Donc, dès lors qu'on se dit pourquoi pas la médiation ou d'aller rencontrer ce tiers-là dans le champ de la famille, on accueille de manière inconditionnelle et on évalue avec la personne. Soit on l'oriente sur un dispositif plus adapté, soit on peut mettre en place l'accompagnement et on prend contact avec l'autre parent ou l'autre membre de la famille par courrier, par email, en l'informant de la démarche. Et on pourra également le recevoir de manière individuelle et de voir la faisabilité de la mise en place d'une médiation familiale.
D'accord, donc j'entends aussi le côté gratuité de la première séance, et ensuite, du coup, les séances sont donc mises en place. Il y a un coût, du coup, qui est demandé aux familles, c'est ça? Mais un coût, je crois, assez...
Tout à fait.
Enfin, en tout cas, qui est pas trop coûteux. Enfin, c'est comment ça se définit, ce...
Alors, je vous parlais du CIDFF et de nous, de l'École des parents et des éducateurs. Il y a plusieurs associations sur le département qui sont conventionnées par la Caisse d'allocation familiale, ce qui permet de pratiquer un barème fixé par la Caisse nationale des allocations familiales. Ce barème national, donc effectivement, c'est un coût encadré. À titre d'exemple, un allocataire du RSA, la séance commune va lui coûter 2 euros. Quelqu'un qui perçoit autour du SMIC, c'est 5 euros la séance commune. C'est en fonction des revenus des personnes. Donc c'est un barème qui est mis en place. Il est donc on informe la personne au moment de l'entretien d'information. À titre d'exemple, ça ne va pas au-delà de 131 euros la séance pour les personnes qui perçoivent autour de 5 000 à 6 000 euros de revenus. Donc, ça va entre 2 et 131 euros.
Donc, c'est très accessible. Hein,
exactement.
C'est très accessible. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup, Widad, pour ta participation à cette émission. Et à bientôt.
À bientôt. Merci.
Wida Omara, médiatrice familiale au sein de l'EPE, l'École des parents et des éducateurs de l'Hérault. Et après cet entretien, place à la musique avec Camille, papa et maman.
Papa m'a dit, demain tout sera différent. Faut que tu sois plus fort qu'avant, car je continue sans maman. Maman m'a dit, à vie tu seras mon enfant. Je te porterai comme le vent, car tu m'es précieux comme le temps. Mais moi je n'y suis pour rien, qu'est-ce que j'ai fait? Je vois leur chemin se séparer. Papa et maman ne s'aiment plus. Je suis perdue, j'ai comme l'odorat sans la vue. Ils vont m'aimer, chacun de leur côté. Ils vont m'aimer, mais chacun de leur côté. Papa m'a dit de faire les choses à ma façon, devenir un homme à la maison, car je ne suis plus un petit garçon. Maman m'a dit j'ai deux fois plus besoin de toi. Tu es le seul homme sous le toit. Je te soutiendrai dans tes choix. Est-ce que j'aurai la force de tout assumer? Tous mes souvenirs partent en fumée. Papa et maman ne s'aiment plus. Je suis perdue, j'ai comme l'odorat sans la vue. Ils vont m'aimer, chacun de leur côté. Ils vont m'aimer, mais chacun de leur côté. On me dit de relativiser, que je n'ai pas besoin de me diviser, car ils seront toujours à mes côtés. J'ai compris ce que mes parents m'ont dit. Ils m'ont toujours aimé jusqu'ici, et ça continuera toute la vie. Papa et maman ne s'aiment plus. Je suis perdue, j'ai comme l'odorat sans la vue. Ils vont m'aimer, mais chacun de leur côté. Ils vont m'aimer, mais chacun de leur côté. Papa et maman ne s'aiment plus. Je suis perdue, j'ai comme l'odorat sans la vue. Ils vont m'aimer, chacun de leur côté. Ils vont m'aimer, mais chacun de leur côté.
Anne-Marie et Maud, après l'interview que l'on a écoutée, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème, Léo Conflit? L'interview était bien complète.
Oui.
Une souffrance infligée à l'enfant, hein, c'est ce qu'on peut retenir tout ce qui a été dit, mais pas que.
Oui, effectivement, je pense que ce qui revient tout le temps, bon, la définition, elle est très bien, hein, je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est vraiment l'enfant qui est complètement oublié et qui est devenu un objet. Il n'est plus du tout, comment on peut dire, une personne, voilà. Il est devenu un objet sur lequel on se bat, qui devient, le sujet souvent du dispute, et comme elle dit très bien, hein, d'ailleurs, avocat, messager, en tout cas, il est, comme on dit, objectisé, et plus du tout reconnu dans ses besoins, et l'intérêt de l'enfant est complètement mis de côté. Et effectivement, nous aussi, dans notre quotidien, on constate de plus en plus de hauts conflits.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Et aussi, il y a le côté aussi de l'enfant qui soigne le parent. Elle a dit aussi, hein, Ouida, dans son interview. Après, c'est toujours la difficulté, c'est que on peut pas non plus faire l'économie de la souffrance des parents. Et quand Anne-Marie dit la souffrance de l'enfant, ses besoins ne sont pas respectés, ne sont pas reconnus, ne sont plus identifiés. En tout cas, moi, ce que je peux me rendre compte dans les situations, c'est que les parents, ils sont tellement eux-mêmes dans une souffrance émotionnelle avec des événements non traités. De la séparation, qui sont plus en capacité d'entendre et de reconnaître les besoins de leur propre enfant. Donc il y a quand même cette nécessité d'accompagner les besoins des parents. Par exemple, je prends l'exemple que j'ai eu ce mardi, là où j'ai eu une nouvelle situation sur le point écoute de l'ODEV, où les parents, ils sont séparés depuis un an et demi, et ça fait que depuis un mois que les parents se reparlent. Donc on peut imaginer les conséquences sur les deux enfants qui sont encore agités, avec des difficultés comportementale forte. Et c'est vrai que moi, j'expose souvent aux parents en leur disant, mais en fait, c'est un deuil quand on se sépare. Quand on est parent, quand on a construit une famille ensemble et qu'on a des enfants, on n'anticipe pas la séparation. Elle n'est pas prévue dans les projets de vie. Donc oui, c'est un vrai deuil. Et souvent, on est dans une société, on le sait, hein, on en a déjà parlé ici, de tout va très vite et les séparations vont trop vite. Les gens se séparent trop vite. On a l'impression qu'on passe devant le juge. Voilà, on divorce, et ça y est, on passe à autre chose. Non, ça prend du temps, et c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de situations où les parents prennent pas assez de temps pour se réparer et pour soigner les plaies. Voilà. Et du coup, ces blessures, eh ben, elles sont animées, elles sont nourries dans le quotidien, et ça prend des proportions sidérantes pour les enfants.
Et c'est vrai que l'enfant, à quel moment il trouve sa place, il est tiraillé entre les deux parents.
Hein, d'où d'ailleurs tous ces symptômes qu'elle nomme très bien, la médiatrice, dans les situations de conflit. Justement, l'enfant, il n'est pas à la bonne place, ça c'est certain. Il trouve une place où il se sent le mieux, entre guillemets, donc soit le parent du parent, soit le soignant, soit l'avocat. Il peut rentrer, il peut être complètement absorbé par le conflit de loyauté aussi. Mais ce sont finalement des moyens aussi de se protéger, hein, par lui-même. Mais il n'est pas à la bonne place, il fait souffrir. Cette place fait souffrir chez l'enfant. Et on a énormément de symptômes chez les enfants.
Et des symptômes, des fois, vraiment graves. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une situation, pour le coup, de conflit à haute intensité, comme énoncé par Widad, où je me suis sentie vraiment pas outillée, quoi. C'est-à-dire que tellement le conflit est fort que j'ai dit aux deux parents que j'ai rencontrés parallèlement, parce que impossible qu'ils se rencontrent à deux, énormément d'appels téléphoniques. Enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué au quotidien, même pour nous les professionnels. On est englués. Enfin, les parents nous happent dans leur conflit. Mais cette petite qui a 8 ans, elle perd du poids. Enfin, on est dans une situation grave. Oui. Une petite fille qui mange plus, qui commence à avoir des symptômes dépressifs. Donc moi, j'ai alerté les parents en disant
souvent, justement, ces symptômes chez l'enfant sont aussi utilisés par les parents, mais c'est à cause de son père.
Ouais.
Ou c'est à cause de sa mère.
Il n'y a pas de remise en question collective.
On est vraiment sur tout est utilisé pour dénigrer l'autre, pour accuser l'autre, pour avoir raison. Et celui qui obtient la garde, d'ailleurs, il a gagné, quoi. C'est ça, hein, on est vraiment un peu là-dedans. Hein.
Et si on peut prendre une perspective d'autres pays, parce que moi j'aime bien des fois aller chercher ailleurs. Déjà, ce qui est très étonnant en France, c'est que nous, on avait déjà travaillé ces notions-là de séparation parentale il y a plusieurs années sur des statistiques. Et déjà, on avait identifié que c'est pas concevable, mais les juges le font, moi je ne comprends pas, de proposer une garde alternée lorsqu'il y a un conflit. On ne devrait pas proposer une garde alternée. C'est contre-indiqué. Et souvent, c'est ce qu'ils font, les juges. Parce que comme il y a deux personnes qui s'attaquent, il fait moitié-moitié. Sauf que c'est une catastrophe pour l'enfant. Et alors qu'il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, la Hollande, la Suède, il y a tout un tas de pays qui... C'est complètement contre-indiqué. C'est-à-dire, s'il y a un conflit, il n'y a pas de garde alternée.
Oui.
Le juge vraiment met les parents en place de responsabilité en disant vous trouvez une solution à deux, vous vous débrouillez, mais vous trouvez, c'est vous les adultes, ça vous prend une fois vous aurez trouvé une solution, un compromis, là on verra pour la garde. En France on fait l'inverse. Et là vraiment on constate
les dégâts. Hein. Et puis je pense qu'il faut rappeler et peut-être vraiment insister. Pour que les parents qui sont dans cette situation, qui peuvent se reconnaître peut-être aujourd'hui dans la définition du haut conflit, il n'y a pas que le JAF.
Il y a
vraiment le placement. C'est vraiment un motif de placement.
Oui.
Puisqu'ils n'arrivent plus ni l'un ni l'autre voir l'intérêt de l'enfant et répondre aux besoins de l'enfant, eh bien, on place l'enfant et personne n'aura la garde. Et l'enfant peut retrouver une place d'enfant. Avec des visites médiatisées pour chaque parent. Donc, ça peut aller très, très loin.
Et ça, c'est important ce que tu dis. Et moi, c'est quelque chose que je dis aux parents. J'ai attention. J'ai à un moment donné, si vous n'êtes plus en capacité, vous parents, de trouver une solution, un juge le fera à votre place. Et la décision qu'il va prendre ne sera pas forcément bénéfique pour vous-même. Donc, c'est quand même important.
Parce que lui va remettre, effectivement, l'enfant et l'intérêt de l'enfant en avant.
C'est peut-être une bonne solution, d'un autre côté.
Et parfois, c'est la seule solution, malheureusement.
C'est aussi une souffrance de l'enfant, parce qu'il est séparé, c'est deux parents pour le coup. Donc pour lui, c'est double peine, hein, quand même. Hein. Mais parfois, on n'a pas le choix.
Parfois, il n'y a vraiment pas le choix.
Et peut-être pour son équilibre, c'est aussi peut-être bon. Quoi.
Voilà. Mmh. Bah, lui offrir un lieu neutre dans lequel il peut grandir normalement. Quoi. Mmh. Mmh. Tout à fait.
Donc, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il faut consulter, il faut en parler de tout ça. C'est important que dans l'une ou notre structure qui existe sur le territoire, on peut trouver des appuis.
C'est ça. J'insiste. Enfin, là, on est là pour en parler, mais qu'est-ce que c'est la médiation ou un autre lieu. Hein, mais la médiation, il faut bien avoir en tête, notamment, que c'est un dispositif qui est ouvert à n'importe quel moment de la séparation. C'est-à-dire que
ou du conflit.
Alors, évidemment, c'est mieux de pas attendre trop quand on est en conflit, parce que plus le conflit se creuse et plus ça devient délicat, parce qu'il y a des conséquences importantes. Mais la médiation, on peut y revenir plusieurs fois dans une vie de famille, c'est-à-dire on se sépare, on fait une médiation, on se recompose avec un nouveau couple ou on a un enfant, on sent un peu des tensions qui apparaissent, on peut refaire une médiation. C'est vraiment un outil de prévention. Et souvent les parents, c'est dommage, mais bon, c'est culturel aussi sûrement, mais ils attendent souvent trop longtemps avant d'arriver en médiation. Et ils vont pas en amont. Et c'est dommage, parce que ça mérite, on peut faire 2, 3, 4 séances, pas plus, pour vraiment poser les choses. Et pourquoi pas aussi identifier que la séparation, on l'a pas complètement traitée, et que peut-être une prise en charge psychologique ou autre peut faire du bien. Mais ça, il faut pouvoir le poser, ça.
La médiation, c'est géré par un psychologue ?
Par une médiatrice familiale.
Mais formation précise, en médiation familiale, c'est pas...
Qui a des connaissances juridiques, qui a des apports intéressants, mais elle peut aussi accompagner les parents et les conseiller pour un appui supplémentaire.
Oui. Et orienter, du coup, sur les psychologues, sur des prises en charge individuelles.
Ou pour l'enfant. Pour l'enfant qui a besoin aussi d'un espace à lui,
Vous, au niveau des personnes que vous rencontrez, vous pouvez diriger justement vers une médiatrice, etc.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des situations qui embolisent beaucoup les permanences. C'est-à-dire quand on a quelques situations de haut conflit, ça nous prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de, comme disait Widad, ce dispositif qu'on a, expérimental qu'on a mis en place, c'est un gros travail de parentalité en parallèle, c'est-à-dire que pendant un moment, les parents ne peuvent absolument pas, il faut quand même entendre qu'il y a des parents qui vous disent, mais rien que l'idée d'être dans la même pièce que mon ex-mari, c'est insupportable en fait, je peux pas. Et c'est la réalité, ils peuvent pas se voir, se sentir, et d'ailleurs des fois ils emploient le mot, je peux pas le sentir, rien que son odeur, j'ai envie de vomir, donc ça va très très loin dans les ressentis. Donc ça c'est une étape importante, préalable avant toute médiation possible. Il faut pouvoir accompagner ces moments-là. Et la société a peut-être un peu cru que suffisait juste d'aller au tribunal, de dire on divorce, on va avoir un juge d'affaires familiales, on met le mot des gardes et c'est passé, c'est pas si simple.
Alors nous allons peut-être conclure l'émission sur les hauts conflits. La conclusion.
Moi je dirais en premier lieu que ce qui est compliqué dans une séparation et ce qui va être traité, c'est la conjugalité et la parentalité qui vont du coup se dissocier, et de dire à ses parents, de pas oublier que la parentalité c'est toute la vie et que ils devront faire avec ça. Et dans tous les événements de la vie de leur enfant, il y aura des moments où ils vont peut-être se revoir.
Ils vont rester un couple parent. De toute façon,
l'avoir en tête, et c'est très important de le conserver.
Puis leur dire, peut-être aussi leur rappeler qu'au départ, s'ils ont fait un enfant, c'est qu'ils se sont aussi aimés et qu'ils ont passé aussi des bons moments.
Voilà, une belle conclusion. Merci beaucoup. Anne-Marie Kstams, coordonnatrice du PRE, le programme de réussite éducative au CCAS de l'ODEV, et Maud Frichou, psychologue de l'École des parents et des éducateurs de l'Hérault, le PE. Nous avons parlé des hauts conflits aujourd'hui. Une émission qui sera rediffusée demain samedi à 13h sur nos ondes, et vous pourrez également la retrouver ainsi que toutes les autres émissions sur le site internet de Radio l'ODEV. Merci beaucoup et au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.